suivez en direct les programmes du studio Kalangou à travers nos 52 radios partenaires. L'édition de 17h, c'est avec Rouquet Abdraman. À la une du journal, une bande de malfrats a été appréhendée et présentée aux autorités hier à Agadez. Vous entendrez les propos du procureur de la région sur la question dans un instant. Dans cette édition, le préfet de Gaya réagit face aux inondations dans plusieurs localités de son département ayant engendré des dégâts et des pertes en vies humaines. Dans la partie magazine de cette édition, on évoquera l'importance des comités d'éveil citoyen, cas de la commune rurale de Yekoua, département de Magaria, région de Zender. Monsieur et dame, bonsoir et merci de nous recevoir. Comme annoncé, les malfrats qui sèment la terreur dans la ville d'Agadez et avec des armes blanches ont été appréhendés par la police et présentés hier aux autorités. Mokhtar Henry, procureur près du tribunal de grande instance d'Agadez, a aussi indiqué que cette bande est à l'origine de l'assassinat du psychiatre de l'hôpital régional. Il est au micro d'Anissé Karim.
Ce sont en réalité des malfrats qui, depuis un certain temps, ont semé la terreur dans la ville d'Agadez. Ils s'adonnent à des actes d'agression avec des armes blanches. Ils ont à leur possession des coupe-coupe, des couteaux et plusieurs autres instruments avec lesquels ils menacent des gens qui les réveillent nuitamment pendant qu'ils sont en train de dormir pour les dépouiller de tout ce dont ils disposent et au besoin, quand les gens s'interposent, ils sont capables de passer au pire. C'est dans ces circonstances qu'ils ont froidement assassiné le psychiatre de l'hôpital régional d'Agadez. En dehors de ces faits, ils ont commis plusieurs autres infractions. C'est des gens qui sont originaires de Zamfara. Selon les renseignements qu'on a, le reste du gang est en train de courir. C'est l'occasion pour moi d'appeler les populations à une franche collaboration avec les FDS.
La suite de ce journal, le mauvais état du tronçon Agadez-Arlette constitue de nos jours un calvaire pour les usagers de cette route. Une situation qui favorise souvent les attaques perpétrées par les coupeurs de route ces derniers temps, selon le syndicat des transporteurs d'Agadez. Il lance un cri de cœur à l'endroit des autorités pour la réhabilitation de cette route. Bilal Afournounou, adjoint au président du syndicat des transporteurs d'Agadez, au micro d'Anissé Karim.
Le tronçon Agadez-Arlette fatigue trop les usagers. Il nous a cassé des véhicules. Qu'on nous dise pourquoi ce tronçon n'est pas réparé. Si on ne peut pas mettre du goudron, que le gouvernement mette de la latérite. Nous ne sommes patientés vraiment. Trop, c'est trop. Vous trouvez des camions gros porteurs et autres en panne sur la route. Quand vous êtes dans un bus, on dirait que vous êtes sur un âne. Dès que vous arrivez à destination, vous partez directement au garage. Or, c'est un engagement qui a été pris après les travaux du pont d'Agadez de s'intéresser à celui de Agatran et de Assolo. Aucun d'entre eux n'a été fait. Le gouvernement n'a qu'à se tourner vers cette situation. Aujourd'hui, à cause du mauvais état de la route, des bandits à moto peuvent intercepter un véhicule Toyota. Vous quittez Agadez le matin pour aller à Arlette. Vous passez la nuit en cours de route. On va vous braquer. Le véhicule ne peut pas filer à grande vitesse, au risque de se renverser.
À Dosso, dans le département de Gaya, les communes de Gaya, Tanda, Yelou et Tounouga sont les localités les plus touchées par les inondations dans le département suite aux dernières pluies enregistrées dans le département. Plusieurs habitats se sont effondrés avec 10 pertes en vies humaines. Assimo Abarchi, préfet du département de Gaya, fait le point au micro de Fadel Alou.
Du 27 août à la date 1 septembre, il y a eu de très fortes précipitations dans le département de Gaya, notamment la commune de Gaya, la commune de Tanda, la commune de Yelou et la commune de Tounouga. Le village de Dolé est entièrement inondé. Le poste même de police frontalière est inondé, comme vous l'avez vu. Il y a le village de Savon-Berny également, où on vient de visiter un site de sinistré dans une école. La situation est vraiment pitoyable. Et je précise, sur l'ensemble du département, malheureusement, on a enregistré 10 décès suite aux effondrements des maisons. J'ai dit qu'il y a un village qui est inondé, mais il y a beaucoup de maisons effondrées dans les 4 communes que nous venons de citer. Elles sont frustrées, elles sont sinistrées. Elles n'attendent que de secours, surtout en alimentation et surtout en abri. Et ces mêmes préoccupations seront transmises le plus tôt possible aux plus hautes autorités du Niger.
Restons toujours à Dosso où la situation pastorale dans le département de Doguendouki est caractérisée cette année par la disponibilité des herbacées et des eaux de surface pour l'abreuvement des animaux selon les spécialistes. La situation sanitaire du cheptel est aussi globalement calme. Haruna Mahamman, agent à la direction départementale de l'élevage de Doguendouki, au micro d'Abdelaziz Dayouma.
Par rapport à la situation de la campagne pastorale actuelle, il faut se rappeler que le tapis herbacé a commencé à s'installer en fin mai, donc à la troisième décade du mois de mai, jusqu'à la première décade du mois de juillet. Aujourd'hui, l'herbe verte vraiment est disponible pour toutes les catégories du ruminant. Il faut aussi signaler que nos parcours pastoraux, en tout cas, sont colonisés par le Sida cordifolia, qui est une espèce peu apaisée. Par rapport à l'abreuvement, vraiment, Dieu merci, ce n'est plus un problème pour les éleveurs. Toutes les retenues d'eau de surface sont vraiment au maximum de leur remplissage. La situation sanitaire du cheptel, Dieu merci, cette année, vraiment, la situation est globalement calme. En dehors de quelques cas de pasteurolose, les petits et les gros ruminants. Donc ça a été observé dans les villages des communes de Dogonkiria, dans Katsaris, Koubutan et même dans la commune urbaine.
Partons à Tillabéri où a eu lieu l'ouverture ce lundi d'un camp de chirurgie de la cataracte au district sanitaire de Balayara dans la région pour une durée de 5 jours. Au total, 300 patients seront opérés par les médecins gratuitement grâce à l'appui de l'ONG Asamakoy. Écoutons les explications de Dundu, ophtalmologue à la direction régionale de la santé publique de Tillabéri au micro de Hassan Moumouni.
Nous sommes là pour appuyer les gens qui ont des problèmes de vision. C'est une association de musulmans qui prend en charge leur opération. Tous ceux qui ont des anomalies de vision peuvent se faire consulter ici. Mais la caravane concerne spécialement les aveugles qui peuvent retrouver la vue après une intervention, parce qu'il y a des pertes de vue qu'aucune opération ne peut rétablir. Nous sommes là pour le premier cas. Nous espérons opérer environ 300 personnes. Et en 2 jours, nous avons enregistré plus de 200 personnes. Nous pouvons dire que la mobilisation est massive ici. Et plaise à Dieu, nous atteindrons notre objectif d'ici peu. La caravane est programmée du 12 au 19 août 2022. Mais le nombre de jours importe peu. Nous nous focalisons sur le nombre de patients à opérer. Si nous avons le nombre programmé, nous arrêtons les opérations. Aussi, nous appelons les personnes intéressées à venir assez tôt pour bénéficier de cette opportunité.
L'Association nationale des personnes atteintes d'albinisme est en assemblée générale à Difa. Cela pour mettre en place le bureau régional. Parmi les préoccupations des membres de l'association, l'éducation des enfants atteints d'albinisme. Hadiza Bawa, membre de l'association, demande aux parents des enfants atteints d'albinisme de s'impliquer dans l'éducation de leurs enfants. Elle est au micro de Mani Moussa.
Voir tous nos enfants souffrant d'albinisme à l'école, tel est notre souhait. C'est leur droit. Tout comme les autres enfants ont le droit d'aller à l'école et réussir. Prenons l'exemple sur notre présidente Khadijatou Momouni. Elle souffre d'albinisme, mais elle a étudié. Aujourd'hui, il n'y a pas où elle n'a pas mis pied. Donc pourquoi on ne peut pas permettre cela aux autres? Ils peuvent même faire plus qu'elle. Je lance un appel. Ici à Difa, aux parents, si tu as un enfant qui souffre d'albinisme, ne les cache pas dans la chambre, car on ne sait pas qu'est-ce qu'il peut devenir. Il y a beaucoup d'albinos qui ont réussi et qui prennent la charge de leur famille.
Autre aspect de ce journal, transformer les espaces d'apprentissage d'alphabétisation, c'est le thème cette année de la Journée internationale de l'alphabétisation. Le ministère de l'Éducation nationale a célébré hier la journée à Dosso. Rahila Sidi, directrice des programmes d'alphabétisation et de la formation des adultes, déclare que le Niger veut faire de l'alphabétisation un facteur de développement au Niger. Elle est au micro de Aoussi Abdrahman.
Pour faire de l'alphabétisation un facteur de développement, notre ministère vraiment est dans une ère de réforme. Et en matière d'alphabétisation et d'éducation non formelle, les réformes que nous sommes en train d'entreprendre actuellement sont essentiellement axées sur la révision des programmes d'alphabétisation pour que ces programmes-là tiennent en compte l'apprentissage des connaissances instrumentales, donc la formation aux petits métiers et nécessairement l'initiation donc à l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. L'alphabétisation donc prend en charge donc les apprenants donc de 15 à 25 ans et de 25 ans à plus.
Du sport, dans ce journal, la région de Difa accueillera la prochaine édition du sabre national de lutte traditionnelle en janvier 2022. Déjà, le comité d'organisation est à pied d'œuvre pour la bonne organisation de cette compétition phare du sport nigérien. Boulama Fade Arimi, membre du comité d'organisation, fait le point sur le niveau des préparatifs et appelle la population de Difa à plus d'engagement pour que le sabre reste à Difa. Il est au micro de Guy Abdraman.
Le 1er janvier 2023 sera organisé un tournoi de lutte traditionnelle Edifa. Par rapport à l'organisation, le comité de réflexion est déjà mis en place pour voir comment mobiliser des lutteurs, comment organiser le tournoi. Ce comité sera subdivisé en 3 sous-commissions. Une sous-commission qui va se rendre au Nigeria, une autre au Tchad et la troisième se rendra à Tawa. Ensuite, nous allons faire venir les lutteurs identifiés pour organiser une sélection. Bien sûr, y compris nos anciens lutteurs. Et cela, c'est dans l'optique de composer une équipe qui va représenter la région au championnat national de lutte traditionnelle. Nous pensons que cette année, le sable national ne quittera pas DIFA. C'est cela notre ambition. Les difficultés que nous rencontrons présentement, c'est avec nos opérateurs économiques. Le gouverneur s'est entretenu avec eux. Plaise à Dieu, il sera mobilisé les fonds nécessaires.
Et puis la partie magazine de cette édition. De la région de Zender, des comités d'éveil citoyens ont été mis en place pour améliorer la collaboration des populations avec les autorités locales. Dans la commune rurale de Yekoua, département de Magaria, depuis la création de cette structure, les populations sont en train d'être sensibilisées sur l'importance de la mobilisation des ressources internes. Pour plus de détails, Zara Boukar s'est entretenu avec le président du comité d'éveil de Yekoua, Aminou Adamou.
Le comité d'éveil citoyen comprend 15 membres et parmi les 15 membres, il y a un comité de 6, dont un président, un vice-président, un secrétaire, un trésorier et des rapporteurs. Et donc, après la mise en place de ce comité, nous avons entrepris des activités de salubrité au niveau de CSI, au niveau de la grande mosquée et aussi au niveau de cimetière. Et après ça aussi, nous avons fait une sensibilisation sur la prise de médicaments antipaludiens. Et ensuite, nous sommes là, nous allons préparer une caravane de sensibilisation sur la mobilisation des ressources.
Qu'est-ce que vous avez prévu concrètement pour amener la population de Yekoua à s'acquitter de son devoir?
Il y a des difficultés en ce qui concerne la mobilisation des ressources. Nous sommes là en train de réfléchir, nous, comité d'éveil citoyen, à faire des sensibilisations parce qu'il y a la méconnaissance des textes qui est là à l'égard de la population. Donc il faut qu'il y ait des sensibilisations. On va mettre un comité en place en collaboration avec la mairie pour aider la mairie à avoir cette mobilisation des ressources.
Vous avez dit qu'il y a la méconnaissance du test, alors comment comptez-vous procéder?
Nous avons prévu une caravane, on va passer village par village et réunir la population, leur expliquer et voilà comment la mairie peut entreprendre des activités si la population est en mesure de payer les taxes, les impôts. Maintenant, la mairie aussi, elle peut avoir des sous pour faire des activités. Il faut qu'ils connaissent d'abord même l'importance de payer les impôts là, parce qu'ils me connaissent l'utilité même du paiement des impôts.
Selon vous, quelle est l'importance de ce comité que Counterpart a mis en place?
Si je peux le dire, d'abord, il est là en train de faire un suivi sur les différentes actions de l'État. Et ensuite, il est là pour appuyer la mairie pour une bonne gouvernance. Il est là aussi pour aider la mairie à avoir des solutions à des petits problèmes. Et depuis la mise en place du comité, en tout cas, il y a une bonne collaboration avec la mairie. Dès qu'il y a une activité, nous informe et on participe.
C'est tout pour cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. À 18h15, vous aurez la rediffusion du forum qui a pour thème Initiative Zéro Classe Payot à Niamey. Quel engagement pour les différents acteurs de l'éducation. Présentation Mokhtar Hamadou. Dans un instant, l'édition en tamashek avec Habib Ahmed. Très bonne suite de réception et au revoir.